Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes au studio ce mercredi 5 juillet 2003. Oui, nous faisons 5 juillet 2023 moins 5 juillet 1884 et nous connaissons l'âge de l'entité Togo. Il nous souvient que c'est le 5 juillet 1884 que le commissaire impérial allemand, Gustav Nachtigal, qui venait d'arriver sur nos côtes, a conclu avec l'émissaire du roi Mlapa de Togoville le fameux traité de protectorat qui donne naissance au territoire du Togo avec des pérégrinations 30 ans avec les Allemands, quelques années sous mandat de la Société des Nations et de l'ONU avec l'administration française, et depuis le 27 avril 1963, le Togo indépendant et souverain. Pour mémoire, c'est le 5 juillet 1884 que pour la première fois, il est porté mention du territoire du Togo. Nous sommes aujourd'hui au studio pour vous accompagner au Club La Presse avec les informations qui vont porter sur la santé. Et également la réforme foncière. Nous savons et nous disons que nous sommes tous assis sur une bombe qui peut exploser à tout moment, les litiges fonciers. Jusqu'au sommet de l'État, on en est conscient, on a entrepris des réformes, dont des actions qui ont commencé dans les communes Zio 2 et AV 2. Nous allons en parler, puis surtout nous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que tout cela va donner? Soyez rassurés, nous avons deux invités, deux personnes ressources de poids. Et nous allons continuer avec les autres sujets que traitent les confrères journaux parus aujourd'hui. À vous tous et à vous toutes qui nous écoutez sur Canal FM ou sur Radio Lumière, à Nero Radio, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Niamtougou, Baga, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisia d'Apan et dans le monde entier par le biais des radios numériques, nous vous saluons. Et nous remercions les techniciens qui réalisent l'émission, Vito Gbekoku Michel Tomega et Gérard Kodjo Akucha. Je l'annonçais aujourd'hui, nous allons parler de nos problèmes fonciers, surtout avoir une idée de la grande réforme foncière que le gouvernement a mise ou bien met en œuvre. Nous allons surtout beaucoup parler de ces opérations qui ont démarré depuis juin dans les communes Zio 2 et AV 2. Et pour cela, nous avons à nos côtés Dr Edo Komlan Théodore. Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour, Sass. Bonjour à tous nos auditrices et auditeurs de Canal FM.
Je suis heureux de retrouver un camarade de l'Université du Bénin. Vous avez fait du chemin aujourd'hui. Vous êtes directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Mais vous êtes dans votre domaine parce que vous êtes docteur en géographie que vous enseignez à l'Université de Lomé maintenant. Merci, directeur, d'être à nos côtés. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes fait accompagner de M. Tchanile Issa. Bonjour M. Tchanile Issa.
Bonjour M. Sass Gaou. Bonjour aux auditeurs et auditrices du Canal FM.
Vous êtes, vous, urbaniste et directeur de l'urbanisme. Eh bien, les auditeurs ont compris, deux personnes ressources de qualité pour nous parler de ces questions qui nous inquiètent. Et comme c'est mercredi, nous parlons santé, n'est-ce pas, Abel Ozi?
Mercredi, on parlera santé.
Avec la dernière parution de Santé Éducation.
Exactement.
Alors, allons-y rapidement avec ce numéro spécial que vous faites sur le temps qu'il fait actuellement au sud du Togo. C'est la mousson, laquelle mousson s'accompagne de fraîcheur. Cette fraîcheur qui peut malheureusement être facteur de toux, de rhume, des angines. Et également synonyme d'aggravation de maladies cardiovasculaires et respiratoires, entre autres des bronchites chroniques, de l'asthme, de la trypanosomiase. Alors, vous nous recommandez 6 aliments pour supporter la fraîcheur de la mousson. Abel.
Exactement. Nous sommes dans un temps où il fait frais, le froid est là.
Non, la fraîcheur.
La fraîcheur, mm-hmm. Oui, pas le froid. Non, la fraîcheur est là et on la sent. Donc, avec cette fraîcheur, comme vous le dites tout à l'heure, nous sommes à risque des maladies respiratoires. Toux, rhume, bronchite, et grippe. Donc, ces maladies-là sont toujours entraînées par des virus. Mm-hmm. Donc, pour éviter, pour prévenir ces maladies, et il faut que notre système immunitaire soit renforcé.
Encore une fois, que notre voilà. Alimentation soit notre premier médicament.
Voilà.
Et vous nous recommandez une alimentation vraiment équilibrée, comportant naturellement quelques éléments que vous nous précisez aujourd'hui.
Oui, exactement. Nous avons énuméré 6 aliments que nous connaissons très bien, qui sont sur le marché, qui peuvent aider à renforcer, à booster notre immunité contre ces virus-là. Mm-hmm. Donc, par exemple, quand nous prenons le gingembre, par exemple, nous savons que le gingembre, c'est une épice très, très, très formidable qui peut aider chacun de nous à être en bonne santé et à booster son immunité. Mm-hmm. Donc, on peut voir aussi que nous avons proposé certaines recettes maison qu'on peut faire à la maison, des infusions, des tisanes qu'on peut faire à la maison pour aussi être en forme. Mais ce que nous recommandons souvent, c'est que si on a le rhume, si on a la toux chronique, si on a des crises d'asthme pendant cette période-là, il faut toujours consulter un médecin.
Naturellement, c'est vraiment important. Mais cette alimentation qui va renforcer notre immunité avec les agrumes, le miel, la soupe de légumes, l'ail, les fruits secs et le gingembre, les recettes suivent. Comment agencer, comment mettre ces aliments ensemble pour en tirer le meilleur profit. C'est à la page 5 de Santé et Éducation. La fraîcheur également que certains pourraient avoir du mal à supporter. Là, vous nous recommandez également des mesures pour mieux nous protéger. D'abord, ça commence par l'habillement.
Oui, l'habillement, il faut bien s'habiller. En fait, pour éviter en fait, le contact du froid avec la peau, parce que cette fraîcheur avec la peau, parce que
certains ne supportent pas.
Donc, veillons à notre vestimentaire et surtout buvons beaucoup d'eau.
Et quelle eau ?
De l'eau plate, de l'eau tiède. Buvons beaucoup d'eau et ça peut nous faire du bien également.
Et quand nous passons à la douche, entre l'eau fraîche, l'eau tiède et l'eau chaude, qu'est-ce que vous nous recommandez ?
Bon, de retour peut-être du travail le soir, de l'eau chaude pour nous relaxer. Mm-hmm. Bon, le matin, prenons de l'eau tiède pour booster un peu l'immunité. Mm-hmm. Parce que souvent, la plupart, quand ils prennent de l'eau chaude le matin, ils ont tendance à somnoler au bureau. On peut le constater. Mais avec une eau tiède le matin, l'organisme est boosté. Et quand on rentre le soir, très fatigué, très, très, très las, très tendu, mm-hmm. il faut prendre de l'eau chaude pour se relaxer et pour bien dormir en fait.
Nous pourrions également avoir des problèmes de démangeaison ou bien de sécheresse de la peau. Là, vous nous recommandez des crèmes ou du beurre de karité qui abonde chez nous ici.
Exactement. Donc, la peau qui se dessèche, on constate cette sécheresse. Donc, la pommade qu'on a souvent, c'est le beurre de karité. Elle est naturelle, donc c'est ce qu'on recommande.
Beurre de karité, made voilà. in Togo, à la mesure de notre bourse. Et vous n'oubliez pas les motocyclistes. Covid ou pas Covid, c'est la période d'utiliser les masques. C'est pour se protéger contre la poussière.
Également la poussière, la fraîcheur.
Voilà. Tout ça, c'est à découvrir à la page 5. Et puis, la page suivante, le bégaiement. J'avoue que j'en ai souffert moi-même dans mon enfance. Ce bégaiement que vous rappelez, c'est un problème d'origine neuromusculaire qui entraîne une difficulté à coordonner la respiration, la vibration des cordes vocales et le mouvement des articulations de la parole.
Oui.
Vous dites que ce n'est pas une maladie.
En fait, selon le spécialiste, l'orthophoniste, il a été clair, le bégaiement n'est pas une maladie.
Mm-hmm. Mais c'est un dysfonctionnement neuromusculaire.
Exactement, comme il le souligne dans l'interview.
Eh bien, oui. Vous allez approcher un spécialiste de la question, c'est M. Nakuyu Tassi-Luc. Il m'excuse si je heurte un peu ses noms prénoms. Il est orthophoniste au Sénao Togo. Et dans son entretien, il nous livre les causes du bégaiement, notamment chez l'enfant. Quelles sont les caractéristiques et surtout, comment corriger cela chez l'enfant?
Exactement. C'est une interview qui fait un peu ce focus-là sur le diagnostic, la prise en charge et surtout l'attitude des parents qui ont des enfants qui bégaient. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Comment les parents doivent se comporter envers leur enfant qui bégaient. Donc, le spécialiste a donné beaucoup d'astuces qui peuvent aider également. Et ce qui est un peu étonnant dans cette interview, c'est quoi? Il dit que le bégaiement n'est pas contagieux. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit que le bégaiement n'est pas contagieux, il ne se contamine pas.
Mm-hmm. Est-ce qu'il est héréditaire?
Oui, selon des études, il est génétique. Voilà, ça c'est selon des études, il est génétique. Donc, le Sénao est aujourd'hui le centre un peu de référence pour la rééducation des enfants qui ont cet handicap-là. Donc, ils sont là pour la prise en charge des enfants qui bégaient. Donc, et on doit comprendre que le bégaiement peut se corriger.
Merci. Voilà. Ce que je peux dire pour aider les personnes comme moi, c'est éviter certains moments d'excitation, notamment d'énervement. Sinon, vous n'arrivez plus du tout à articuler les mots, tout s'entrechoque dans vos bouches. On termine avec ce petit, comment je ne sais pas l'appeler, c'est un fruit ou bien c'est une épice qui agrémente nos plats, notamment quand on te fait de bons foufou et qu'on met du poivre noir dedans. Abel, tu te rappelles déjà le parfum qui émane de la sauce
de foufou
au poivre noir?
Oui, poivre noir.
Eh bien, ce poivre noir, c'est pas seulement pour agrémenter les plats, mais il offre également de nombreux bienfaits pour la santé, en particulier pour le cœur.
Oui, le poivre noir, qu'on l'appelle déjà communément dans nos langues, atikanli. Voilà, donc nous en disposons assez dans nos marchés, sur nos étalages. Et nous faisons un petit focus sur le poivre noir. On a juste identifié un aspect important qui est son effet positif sur le cœur. En fait, sur la santé cardiaque, sur les maladies cardiovasculaires. Vous savez, c'est un antibiotique naturel que nos mamans mettent dans les sauces, dans nos plats pour rehausser le goût. Mais derrière, c'est un anti-inflammatoire et ça booste le cœur. Et
comme
ça,
quoi, voilà. Nous avons tout chez nous.
Voilà.
Vivement que nos enseignants-chercheurs s'intéressent à tout ce qu'il y a autour de nous pour trouver les valeurs essentielles et nous enseigner. Peut-être que nous gagnerions beaucoup, nous ferions beaucoup d'économies à ne plus nécessairement aller dans les supermarchés. Tout se trouve dans notre nature, Abel.
Exactement. Donc, comme le poivre noir, comme je le disais, c'est un antibiotique naturel qui réduit l'inflammation et qui favorise la circulation sanguine. Donc, quand le sang circule bien dans l'organisme, on est en bonne santé.
Et également, c'est un antioxydant puissant.
Antioxydant puissant parce que ça permet d'éliminer les toxines et surtout les radicaux libres. Et ça nous permet de gérer le stress, en fait.
Ça, ce n'est qu'un petit avant-goût. Il y a bien d'autres articles très intéressants dans la santé, dans la parution de Santé et Éducation aujourd'hui. Notamment, les meilleurs aliments que les parents doivent servir à leurs enfants pour doper leur cerveau. Les meilleurs aliments pour le cerveau des enfants. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Tu dois encore avoir de jeunes enfants.
Oui.
Eh bien, tu vas lire l'article à la page 4, les meilleurs aliments pour le cerveau des enfants. Et tu vas en parler avec ton épouse.
C'est à combien déjà?
Santé, éducation.
Oui.
La version papier à 1000 francs et la version
1000 francs seulement.
Et à 500 francs.
D'accord.
Ou bien comme...
J'irai chercher.
Ou bien comme c'est le langage que nous comprenons beaucoup, santé, éducation, c'est moins de 2 bouteilles d'une bière que tu affectionnes beaucoup.
Voilà.
N'est-ce pas? Je n'ai pas trop dit.
Non, c'est concis.
Merci beaucoup. Eh bien, santé, éducation, Sylvestre Béni qui vient de nous rejoindre. Sylvestre Béni, tu étais un peu en retard.
Oui.
Mais les deux messieurs que tu vois à ma gauche, c'est Docteur Edo Comlin Théodore. c'est mon camarade à l'université du Bénin, ouais. S'il te plaît. Hein.
Oui.
Il est docteur en géographie, qu'il continue à enseigner à l'université de Lomé maintenant, mais il est aussi et surtout directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Et le monsieur à ta gauche, c'est monsieur Tchanile Issa, lui il est urbaniste, il est directeur de l'urbanisme au 10 ministères. Et ils sont là, nous les avons sollicités pour nous parler un peu des problèmes fonciers,
oui.
Mais surtout, quelles sont les mesures que le gouvernement met en jeu pour résoudre ce problème. Et Sylvain, tu te rappelles que depuis le 7 juin 2023, il y a un communiqué interministériel. Signé du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme foncière, de son collègue ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, du développement des territoires, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du ministre de la Planification, du Développement, de la Coopération, du ministre de l'Environnement, des Ressources forestières, également du ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, pratiquement la moitié du gouvernement,
oui.
Qui a signé ce communiqué conjoint pour nous informer de certaines opérations qui ont commencé dans les communes AV2 et ZIO2. Opérations tellement importantes que, au 30 juin échu, le gouvernement a dû prolonger l'opération jusqu'au 31 juillet. Voilà ce pourquoi nous avons sollicité ces honorables messieurs. Monsieur le directeur de cabinet, rebonjour.
Rebonjour, monsieur Sasker.
Eh bien, nous en parlons, nous journalistes, mais rappelez-nous, quel est l'objet de ce communiqué interministériel signé le 7 juin qui a été reconduit et qui court jusqu'au 31 juillet?
Voilà, merci beaucoup Sasker Gaou. Le communiqué a pour objet l'implémentation, n'est-ce pas, du plan local d'urbanisme que nous développons dans les deux communes AV2 et ZIO2.
Mm-hmm.
Le deadline, comme vous l'avez dit tantôt, était donc le 30 juin. Mais compte tenu de l'affluence, le gouvernement a décidé de proroger la date butoir, cette fois-ci au 31 juillet.
Mm-hmm.
C'est donc le lieu, vous me permettrez, n'est-ce pas, de reprendre un peu la formule du gouvernement, mm-hmm. au nom de monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, pour remercier toute la population pour la collaboration qui témoigne, n'est-ce pas, qui augure déjà de ce que nous prévoyons, la réussite de ce projet pilote.
Merci. Le communiqué disait qu'il sera procédé à l'enregistrement systématique des parcelles de terrain, fonds de terre et leurs propriétaires dans le ressort territorial des deux communes, ZIO2 et AV2. En français facile, en quoi consistent ces opérations, monsieur le directeur?
Oui, ces opérations s'organisent dans le cadre de ce que nous appelons le plan local d'urbanisme.
Mm-hmm.
Vous savez très bien que la réforme foncière portée par le gouvernement, mise en œuvre par d'abord le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, avec un certain nombre de ministères impliqués, qui ont tous signé le communiqué. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une réforme qui a pris son cours depuis un certain temps et ponctuée par l'adoption du code foncier domanial, n'est-ce pas, en 2018.
Mm-hmm.
À la suite de du code foncier, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être implémentées. Vous le savez très bien, l'adoption du code foncier et un certain nombre de textes réglementaires nous permettent un tant soit peu de contenir le problème foncier. Mais vous savez très bien actuellement dans nos cours et tribunaux des problèmes, des situations conflictuelles demeurent. Et donc, il est donc normal qu'un certain nombre d'actions soient entreprises. Et dans ce cadre-là, eh bien, à l'ère de la décentralisation intégrale, il nous appartient d'adopter un certain nombre d'outils de planification. Et le PLU se situe bien, n'est-ce pas, dans cette procédure de mise en place d'un certain nombre d'outils de planification à la disposition des collectivités locales.
Okay. Je reviens au communiqué qui demandait aux propriétaires, aux acquéreurs et aux collectivités détentrices de parcelles, de terrains et fonds de terre de ces deux communes, Ziode 2 et AV2, de bien vouloir déposer les copies des plans parcellaires, des titres fonciers et des autres droits de propriété de leurs parcelles de terre et fonds de terre dans les bureaux des chefs-lieux des deux communes. Alors, est-ce que les populations arrivent à rassembler toutes les pièces demandées et à déposer dans les deux préfectures, dans les deux communes?
Dans les deux communes. Merci beaucoup, Monsieur Sasgaou. Nous avons fait la tournée des deux communes et ce que nous avons vu témoigne vraiment de la mobilisation de la population. Le gouvernement a repris donc cela dans le communiqué que vous venez de lire tout à l'heure. Donc, il est demandé à tous les détenteurs, tous ceux qui ont des parcelles dans les deux communes précitées, de bien vouloir déposer dans les chefs-lieux ce que nous appelons un plan, c'est-à-dire le plan de votre parcelle. Mais seulement, ce plan doit être établi aux normes, aux normes UTM, hein, dans le jargon technique, c'est le plan aux normes UTM, Universe Transfer Mercator. C'est-à-dire que ces terrains, ces lopins de terre, ces fonds de terre doivent être géolocalisables. Ce qui permettra aux techniciens, dès qu'on a le plan, quand on le pose, parce que la fin, l'objectif final, c'est d'établir ce que nous appelons, n'est-ce pas, une cartographie parcellaire des deux communes, pour savoir qui possède quoi, qui a quoi. Voilà, donc le plan aux normes UTM et ce que nous appelons les droits de propriété. Dans la grande famille des droits de propriété, nous avons le roi des droits, c'est le titre foncier. Si vous avez le titre foncier, vous le... Mais il y a aussi des droits intermédiaires, un reçu d'achat
ou de vente.
Ou de vente, n'est-ce pas? Actuellement, on ne fait plus les trois tampons, mais si vous avez sur votre lopin de terre les trois tampons, tout ce qui est un droit intermédiaire, vous venez, vous allez à la mairie de Covier, selon le lieu de la commune dans laquelle se situe votre propriété, et vous déposez. On enregistre tout ça et en retour, vous avez un papier qui vous permet d'avoir la traçabilité de ce que vous avez déposé.
Merci docteur, mais les communes AV2 et ZIO2, avec tout le respect que je dois à mes beaux-parents, c'est beaucoup plus des populations rurales. Et je présume, je pense que tous n'ont pas le titre foncier, tous n'ont pas le plan normé tel que vous en parlez. Alors, quand les populations arrivent avec des plans qui ne sont pas nécessairement géolocalisables, est-ce que les missions reçoivent ces papiers?
Monsieur Sasgaou, l'objectif final de l'opération, c'est donc de savoir, de pouvoir localiser les propriétés de chacun. Donc, quand vous arrivez à un plan, avec un plan traditionnellement établi, on vous demande de trouver un géomètre, n'est-ce pas, qui peut juste prendre les points, les coordonnées des différents points que vous pouvez adjoindre, n'est-ce pas, au plan que vous avez apporté, et vous pouvez donc être enregistré.
Donc,
c'est ce qui se fait actuellement sur le terrain, et toute la population, tous ceux qui détiennent des plans qui n'étaient pas aux normes UTM, donc saisissent des géomètres qui peuvent saisir rapidement les coordonnées qu'on annexe au plan et le dépôt est vite fait.
Merci. Oui, l'ami Sylvestre.
Oui, bon, j'ai juste une question. Aujourd'hui, il y a quand même des litiges sur certains lopins de terre, du fait donc des doubles ventes, voire des triples ventes, et les trois ont des reçus sur le même terrain. Mais est-ce qu'ils viendront, eux aussi, les trois viennent déposer à la commune? Et qu'est-ce qui sera fait plus tard? À qui appartiendra peut-être le lopin plus tard? Puisque eux tous, ils ont des reçus, ils ont même des plans. Certains même ont avancé à deux tampons, trois tampons et tout. Mais eux tous viendront déposer parce que chacun estime que le terrain est à lui. Qu'est-ce qui sera fait?
Oui, il n'y a pas. À ce niveau, apparemment, vous êtes parti sur le terrain, vous avez vu de ces.
Bon, peut-être qu'il est intéressant au premier degré.
Il n'y a pas de problème. L'objectif. Hein, c'est ce que nous appelons la régissement systématique.
Oui.
Quand il y a plusieurs prétendants
oui.
sur la même parcelle ou le même fond de terre, chacun apporte les preuves en ce qui nous concerne et on enregistre. Mais il appartient au tribunal, in fine, quand l'affaire sera vidée, de dire, eh bien, tel, c'est à tel qu'appartient le fond de terre ou bien c'est à celui-là qu'appartient la parcelle. Et en ce temps-là, sur le document, eh bien, le propriétaire sera enregistré puisqu'il aura gagné le procès.
Donc, bien, autrement dit, eux tous peuvent venir pour le
moment. Eux tous peuvent déposer.
Ok, donc l'opération concerne aussi bien les espaces bâtis que les espaces ruraux.
Les espaces.
Dans les deux communes.
Dans les deux communes. Voyez-vous, le plan local d'urbanisme, c'est un long processus hein, qui a commencé par un diagnostic. Donc, dans les deux communes, un diagnostic a été établi. Ensuite, il y a eu une proposition qui a permis de définir ce que nous appelons. Sur le plan technique, les grandes zones fonctionnelles. C'est-à-dire, vous avez les zones déjà urbanisées. Vous le savez très bien que Zior 2 et AV2 font partie de ce que nous appelons la première couronne de Lomé. Hein, si vous voyez le Grand Lomé, les deux communes constituent ce que nous appelons la couronne du Grand Lomé. Et l'impact, la pression foncière de Lomé sur ces deux entités n'est plus à démontrer. Eh bien, alors, il y a eu la phase diagnostique. Il y a eu la phase de proposition hein, et la définition des grandes zones fonctionnelles. Ça veut dire qu'on a défini des zones à urbaniser immédiatement, des zones où l'urbanisation doit être différée, ce que nous appelons des trames bleues, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au ruissellement, à l'eau, à l'écoulement, c'est la trame bleue, et tout ce qui a trait... à la forêt, tout ce qui est forêt, galerie, forêt sacrée, etc., c'est la trame verte qui doit être préservée. Vous savez très bien qu'Ovier, c'est notre grenier de la production du riz, toute la zone rizicole. Mais si on y prend garde, vous savez ce qui va tout va être...
bradé.
Tout à fait, vous avez compris. Voilà donc, et du processus, depuis le diagnostic, la définition de la proposition, la définition des grandes zones, il faut maintenant aller à la phase, n'est-ce pas, de recensement d'identification qui nous permettra d'aller, n'est-ce pas, à ce que nous appelons, n'est-ce pas, l'implantation.
Voilà. Merci. Alors justement, monsieur le directeur de l'urbanisme, Charnilé Issa, rebonjour.
Bonjour, monsieur.
Certaines personnes allèguent que le gouvernement aurait des visées, des projets vers les deux communes, Zior 2, AV2, qu'en est-il?
Oui, merci Monsieur Sass. Le projet plan local d'urbanisme des deux communes, AV2 et Zior 2, a pour ambition d'indiquer sur les deux communes l'aménagement ou le plan de développement en matière d'urbanisme, donc dans les années à venir. Et à la suite de ces plans qui ont été élaborés, effectivement, le gouvernement a un plan pour implémenter, par exemple, le développement de ces deux localités. Donc il y a des projets qui vont être réalisés, et quand ces projets vont être faits, devront être faits, il va falloir se référer à un document de référence qu'est le plan local d'urbanisme de ces deux communes.
Pendant que ces opérations d'enregistrement se poursuivent, et en attendant le plan local d'urbanisme, est-ce que on peut toujours continuer à acquérir hein, des terrains dans les communes Zior 2 et AV2, monsieur le directeur?
Oui, ce que vous venez de dire là, je dirais toujours, vous êtes en contact avec là. Nous, on a remarqué même une flambée de tout ce qui porte sur le foncier. Or, avant même qu'on dise de rassembler le plan, bon, il y a un certain engouement de la population. Non, 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 ce n'est pas dans le sens de mais comme le dit tantôt
le directeur de l'urbanisme,
il faut avoir une vision d'aménagement. Les zones à différer, les zones à programmer en fonction d'un certain nombre d'aménagements, c'est ce qu'il nous faut faire. Mais vous savez très bien que la propriété est ce qu'il y a de plus absolu. Mais on nous demande avant tout, vous savez très bien que une disposition même du code foncier dit qu'avant de vendre, il faut immatriculer. Est-ce que vous voyez?
Et ça veut dire que si moi qui veux acheter, je dois m'assurer que le terrain que je veux acquérir est immatriculé.
Est immatriculé. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Mais avec, vous connaissez très bien les rapports du Togolais, de la population avec le fonds de terre. Il se dit toujours, eh ben, je vais acheter d'abord et puis je vais régulariser. On verra.
Ok. Voilà. Les opérations d'enregistrement vont prendre fin le 31 juillet prochain. Et la suite?
Oui, le 31 juillet prochain, c'est le deadline, comme nous l'avons dit, pour l'opération de collecte, de dépôt. Et ensuite, il y aura la phase technique, n'est-ce pas, de juxtaposage, de la cartographie parcellaire telle que nous le disons. Et ensuite, on aura la phase, n'est-ce pas, de l'implantation. Hein. On saura alors à qui, à quelle collectivité appartient tel fonds de terre, etc. Tout sera matérialisé dans l'espace.
Et je présume que AV2 et ZIO2 sont un premier échantillon sur les 117 communes et les 39 préfectures que notre pays compte, si je m'abuse. Oui. Alors, est-ce à dire que l'opération qui a cours maintenant à AV2 et ZIO2 pourra être étendue à tout le reste du territoire national?
C'est notre ambition, voyez-vous. Nous sommes à l'ère de la décentralisation intégrale. Ça nous fait 117 communes. Donc, eh bien, le projet PLU a été implémenté dans le cadre, n'est-ce pas, du projet gouvernemental présidentiel prioritaire. Et notre ambition est donc d'étendre, n'est-ce pas, c'est selon, hein, de proche en proche ou de loin en loin, en fonction, n'est-ce pas, du Grand Lomé, n'est-ce pas, aux autres communes. Parce que nous le savons tous, le fond de terre, le foncier, la terre est le support de toutes les activités humaines. C'est d'ailleurs pourquoi la réforme foncière est inscrite, n'est-ce pas, en bonne place dans la feuille gouvernementale 2020-2025.
Merci. Monsieur Tchanile, peut-être une précision, un complément d'information sur l'opération qui a cours à V2O2.
Oui, le directeur de cabinet l'a dit. Je pense que avec le communiqué, les deux communiqués que le gouvernement a fait sortir, il faut que tous les propriétaires de terres dans ces deux localités fassent de leur mieux pour pouvoir déposer les documents, parce que ça va de leur intérêt. Il faut qu'on connaisse à qui appartient le fonds de terre dans ces deux communes avant de pouvoir implémenter un bon projet de développement de ces deux localités.
Merci, monsieur le directeur. Une question qui nous arrive d'un auditeur et à cette opération d'enregistrement dont nous parlons dans AV2IO2. Il y a quelque temps, l'OTR avait également entamé une opération de recensement fiscal dans, je crois, Golf, deux communes à Guadivé. Oui. Alors, est-ce que ces deux opérations similaires, semblables ou bien pratiquement qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre?
Ces deux opérations similaires, toutes portant sur le foncier, parce que toutes portant sur le foncier, mais nous, pour nous, en ce qui concerne les PLU, nous l'avons dit, c'est à des fins, n'est-ce pas, c'est des outils d'aménagement, des outils, n'est-ce pas, de planification urbaine.
Merci. Un autre auditeur qui demande, monsieur le directeur, est-ce que le gouvernement n'aurait pas une idée derrière la tête, une sorte de piège dans l'une ou l'autre opération?
Non, monsieur Sass, je pense que ce n'est pas un piège, mais au contraire, comme on l'a dit, l'objectif visé, c'est le développement des deux communes, savoir ZIO2 et AV2, et qui sont juste apposées à Lomé, et dans lesquelles on sent qu'il y a déjà de l'engouement et une pression foncière qui est très forte. Donc, avant de pouvoir implémenter un bon plan de développement, il faut asseoir un bon plan d'urbanisme. L'objectif, c'est ça, c'est de réaliser le plan local d'urbanisme de ces deux communes, de connaître les différentes zones d'habitation, les différentes zones où on va faire les activités, les activités agricoles, les activités industrielles, artisanales, les champs, tout ça là. Donc, si on connaît tout ça là et on connaît à qui appartient le terrain, je pense que le projet sera une réussite.
Merci.
Pour Alsace, quel piège y aurait-il derrière le fait de vouloir connaître à qui appartient une parcelle de terre? Je vous ai dit tantôt que c'est un long processus. Nous avons lancé le programme. Nous avons fait des ateliers de validation, aussi bien au chef-lieu de ZIO2 qu'au chef-lieu de AV2. Toutes les populations, les leaders d'opinion, les chefs cantons, les préfets, ils ont eu à poser autant de questions. Je crois que il est temps pour nous de résorber un tant soit peu tout le problème qu'il y a au niveau de nos cours et tribunaux. Et une bonne fois pour toutes, ben, monsieur Benil a posé la question tout à l'heure. Alors, si deux personnes, deux collectivités, trois collectivités sont devant les tribunaux pour un lot, alors n'est-il pas judicieux de savoir à qui appartient le terrain pour une bonne fois pour toutes? Je crois qu'il n'y a pas de piège derrière. Il est temps que nous planifions l'occupation de l'espace à bon escient plutôt que de laisser l'occupation anarchique de l'espace dans nos communes. Et je crois que le modernisme est à ce prix-là.
Une auditrice dit mieux vaut tard que jamais, parce qu'on a souvent fait le procès au gouvernement d'avoir manqué d'anticipation dans de tels plans. Oui, Sylvestre Béni.
Oui, et ma dernière question, c'est un parce véritablement qui n'a pas de piège, mais ils ont seulement des appréhensions du fait qu'il y a certains qui sont aujourd'hui proches donc des rétentions et qui véritablement voient ce que ça donne aujourd'hui. Donc pour certains, le gouvernement aurait donc l'idée des rétentions, un projet de rétention dans cette zone. C'est pourquoi on demande à ce que, est-ce que bon,
monsieur Sylvestre,
il y a
Denis,
ces rumeurs là qui circulent.
Il n'y a pas de. Je reviens, oui, pour vous dire que avant même le premier communiqué, il vous en souvient que un communiqué interministériel a rappelé les dispositions du décret de 1967 relatif, n'est-ce pas, au lotissement. Je ne veux prendre que cet exemple-là. Mm-hmm. Alors, les collectivités sont là, on dit, avant de morceler, par exemple, avant de procéder à un lotissement, il faut ce que nous appelons une autorisation préalable du ministre chargé, c'est-à-dire le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Mais à quoi assistons-nous? On contourne, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous appelons des lotissements clandestins. Alors, on fait le lotissement et on se dit, eh bien, on a créé une réserve ici, etc. Parce que nous n'avons pas été avisés.
Vous, c'est-à-dire l'État.
Le gouvernement, c'est-à-dire le ministère en charge de l'urbanisme, qui est censé donner cette autorisation préalable. Ils n'ont pas l'autorisation préalable, ils procèdent quand même au lotissement. Et ils se disent qu'ils ont créé une réserve. Mais à quoi assistons-nous? Ben, il est beaucoup plus bien placé, n'est-ce pas, de distraire cette réserve-là, parce que le ministère n'ayant pas été saisi, n'ayant pas donné cette autorisation préalable. Maintenant qu'on dit, nous anticipons, est-ce que vous voyez, pour permettre à chacun... Alors, si nous disons maintenant, vous, ils avaient prévu la réserve, on dit... Vous avez la réserve ici. Où est la réserve? Cette réserve-là, que quelqu'un occupe allègrement. Mm-hmm. On est d'accord? Mm-hmm. Je crois qu'il n'y a pas, il n'y a aucun piège. Le gouvernement, c'est le bon père de famille qui s'occupe, n'est-ce pas, du bien-être de chacun. Moi, je vois quand tout le monde, c'est quand vous, devant les cours et tribunaux, on l'a dit, je ne donnerai pas de pourcentage des affaires qui t'aiment, mais tout le monde sait.
75%.
Ah, je ne sais pas tout. Mais nous le savons que la plupart des affaires qui sont pendantes devant nos cours et tribunaux, c'est du foncier.
Merci, nous allons avancer. Et puis, il n'y a pas de hasard. Et un peu lié à votre ministère, il y a ce que le confrère Le Libéral écrit ce matin. Urbanisme et habitat vers la construction de 1000 logements décents à Lomé. Alors, cet article, c'est juste une vue du journaliste ou bien un projet réellement à votre connaissance, monsieur le directeur?
Oui, monsieur Sasgaou, c'est bien dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, il y a ce que nous appelons donc le projet P7, qui est la construction, n'est-ce pas? C'est un grand programme. 20 000 logements décents et à coût abordable. C'est ce qui est inscrite, n'est-ce pas, dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Mais à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce grand programme, il y a des phasages de projets et le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, s'emploie donc à mettre en œuvre ce grand programme qui permettra à terme, n'est-ce pas, de mettre à la disposition de la population togolaise des logements décents et à coût abordable.
Docteur Edo, vous savez que nos compatriotes aiment voir et toucher avant de croire.
Non, le site est sécurisé. Le site, là, il s'agira normalement d'une ville nouvelle qui sera construite, n'est-ce pas, dans la banlieue nord-est de Lomé, précisément dans la zone de Bomé, où l'État a sécurisé, n'est-ce pas, 1177 hectares qui servira à cette fin.
Ok, nous sommes le 5 juillet 2023. À quand la construction de ces 1000 logements, docteur?
La construction des logements, vous savez que, je le répète, c'est un process.
Oui.
Vous savez que nous voulons faire les choses dans les règles de l'art.
Là, nous sommes d'accord.
Eh bien, il ne s'agira pas d'aller tout de suite et mettre des coups de pioche et amener des maçons pour commencer à ériger des murs. Mm-hmm. Il faut des études préalables,
oui.
N'est-ce pas? Dans le jargon, il y a ce que nous appelons des études géotechniques,
oui.
Il y a des études urbanistiques, des études topographiques, même la portance du sol qui doit être déterminée par des études géotechniques. Il faut tout cela. Il faut mobiliser tout le financement parce que, voyez-vous, il s'agit d'un grand programme qui sera ouvert aux partenaires privés.
Tout ça, je suis d'accord. Mais Sylvestre Béni veut commencer à épargner.
Justement, justement on veut prendre date.
Il commence à épargner.
Et on va commencer à épargner.
Dans quelle année il peut espérer
avoir,
recevoir sa clé?
Nous sommes en phase pratiquement finale des études, parce que des études préalables, Inch'Allah, je sais très bien que à partir de 2024, eh bien, le chantier sera lancé.
2024.
C'est dans moins de 6 mois.
Nous y serons.
J'espère que vous serez encore d'ici le cabinet.
Déjà à partir de janvier
2024, nous passerons, nous en parlerons. Merci, monsieur le directeur Edo, pour votre disponibilité, monsieur Tchani Leïssa. Mais à partir de 12h, les auditeurs pourront entrer en ligne. Peut-être que l'un ou l'autre aurait des questions sur d'autres aspects que Sylvestre et moi n'avons pas pu voir à votre endroit. Pendant ce temps, Sylvestre Béni, plein de nos confrères se retrouvent sûrement aujourd'hui à l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'UGIT, que se tient au foyer César, non, au foyer plutôt, c'est César, petit séminaire, comme on l'appelle.
Séminaire, oui.
Merci quand même pour l'esprit club de la presse qui t'a fait arriver ici. Oui. Alors, nous allons aborder les autres sujets, notamment en page politique, la CENI a beau siffler la phase du recensement électoral, mais la polémique, pour ne pas dire les commentaires, demeurent autour du recensement dont certains souhaitent vivement que soit organisé une série de rattrapages dans la zone 1. En plus de ça, il y a les attentes d'un fichier électoral vraiment fiable avant que nous allions aux prochaines élections que nous souhaitons vivement transparentes. Alors, dans cette ambiance, il y a Liberté qui titre aujourd'hui « Élections face aux manœuvres du pouvoir ». Les défis à relever par les partis politiques de l'opposition. Et puis, il y a quelques jours, l'ANC a fait sortir un communiqué dans lequel ce parti demandait, pour ne pas dire réclamait ou exigeait, une session spéciale du cadre permanent de concertation entre acteurs politiques. Nous apprenons que le CPC tient une session aujourd'hui et sur demain.
Oui. Pardon, oui, il y a quand même l'ANC qui, bien avant donc de demander la réunion donc du CPC en ce qui concerne donc la CENI, il voulait qu'on puisse au moins reprendre les opérations donc de recensement à Lomé, parce que nous tous nous avons quand même constaté que à Lomé ça a été véritablement bousculé. Et même si vous prenez le premier conseil des ministres du gouvernement, le gouvernement a reconnu quand même qu'il y a eu quelques dysfonctionnements et a demandé donc aux acteurs de régler cela, de prendre un certain nombre de mesures pour régler cela. Donc, pour bon nombre, certains estimaient que du fait donc de ces dysfonctionnements que nous avons eu donc dans la zone 1, sûrement qu'après les zones 2, zone 3, c'est-à-dire à la fin de la zone 3, au moins on pourra revenir à Lomé pour quelques jours donc de recensement, histoire de corriger cela. Mais bon, la CENI, bon, du fait également donc peut-être de son chronogramme, a respecté le chronogramme et a déclaré donc la fête.
Chronogramme que la CENI n'a communiqué à personne.
Oui, à personne pour l'instant, parce que même ici, nous aurons quand même aimé qu'on puisse nous donner tout le programme, même quand est-ce que nous irons aux élections et tout. Mais à la fin, je crois que la CENI a sorti un communiqué et dit donc que, bon, officiellement, les opérations de recensement ont pris fin et donc ils ont commencé la phase d'apurement, hein, donc de recensement, ou du moins c'est des données. Et du côté de l'opposition, surtout de l'opposition, quand vous prenez donc la DMP, quand vous prenez le CAR, quand vous prenez l'ANC et beaucoup de partis politiques, ils réclament quand même qu'on puisse reprendre le recensement. Mais c'est donc dans ce cadre-là que l'ANC a demandé à ce qu'on ait ce cadre-là, et le cadre donc permanent donc de dialogue, de concertation. Et donc, puisque l'ANC a pris part à certains travaux donc de cette commission, sûrement que le débat sera posé, et ou du moins l'ANC fera donc cette proposition à ce qu'on puisse revenir dans la zone numéro 1 pour continuer donc les opérations de dénombrement. Maintenant, on verra au niveau donc des autres partis politiques si tout le monde du moins ça accepte le principe, partage quand même la proposition de l'ANC. Je remarque qu'il y a d'autres courants ou d'autres partis politiques qui vont soutenir cela, parce que sur les médias, ils disent ouvertement qu'il faut qu'on reprenne. Mm-hmm. Donc si ce cadre arrive donc à accorder ses violons et accepte à ce que la CENI puisse procéder à quelques jours, des jours supplémentaires de ce recensement, donc il revient au gouvernement donc de prendre également ses dispositions. Encore que le gouvernement aussi avait en amont demandé à ce qu'on puisse procéder à ces dysfonctionnements-là. Donc, on verra dans
quelques jours. Nous verrons ce soir ou demain, les conclusions, bien les actes du CPC. Mmh. Mais pour la vigilance et la veille au moment du recensement, il faut rappeler que l'ANC avait beaucoup œuvré, mais également la DMP, la Dynamique de la Majorité Populaire, qui avait même mis une instance de monitoring. Justement. Et qui alertait l'opinion au jour le jour. Et les élections à venir, régionales ou législatives annoncées pour l'année 2023, mais est-ce que nous irons au vote cette année, ou bien est-ce que nous risquerions d'assister à un léger glissement vers l'année 2024? On continue à regarder dans le ciel, mais en prévision de cela, il y a quelques mouvements dans l'opposition. Il y a d'abord l'UMP, l'UMP, l'Union pour la majorité parlementaire, mais également le parti FDR de Maître Apevon, qui initie une série de rencontres autour de lui. C'est peut-être dans le sens d'une coalition et autres, mais les appels ici et là, un peu dans ce sens. Togo Matin qui écrit aujourd'hui, dans le sens de l'union de l'opposition, la position de Jean-Pierre Fabre évolue sensiblement. J'avoue que je n'ai pas encore lu l'article de Togo Matin, mais sur cette question de union de l'opposition dans le sens des élections à venir. Sylvestre Béni?
Oui, en fait, à l'approche des élections, on constate très souvent donc, des coalitions. C'est en fait un thème qu'on aime beaucoup au Togo, coalition, union et tout ça. Il y a certains qui, du fait donc, de leur idéologie politique, aiment quand même se retrouver. Et c'est vrai que l'ANC avait quand même dit qu'ils ne vont plus coaliser avec n'importe quel parti politique. Quand au début, donc au lendemain donc de 2020, du fait donc de tout ce que nous connaissons, cette situation, la guéguerre entre la DMK. Oui, la DMK et la DM et l'ANC. Mm-hmm. La DMK, bon, maintenant on a DMP, il suffit donc de...
Il y a encore et toujours la DMK.
Justement, okay. Je dis il y a la DMK et la DMP. Mm-hmm. Donc il suffit de prendre donc DM comme facteur, okay. Et puis vous mettez K et P et puis vous avez tout. Donc eux aussi, ils étaient un peu à froid avec l'ANC, mais nous avons quand même appris qu'il y a eu beaucoup de rencontres entre plusieurs formations politiques dans le cadre donc d'une éventuelle union ou coalition pour aller à ces élections. Mais s'ils arrivent à le faire, je crois que ce serait un tout béni quand même pour ces formations, parce que si on prend le fait donc de 2019 lors donc des élections au niveau communal, au niveau des communes, vous avez vu que cette union là a beaucoup plus profité à beaucoup de formations politiques, surtout de l'opposition, pour avoir quelques mairies et tout. Donc aussi, hein, à l'approche donc, des législatives, ils arrivent également à le faire. Je crois qu'ils peuvent éventuellement avoir quelques sièges. L'exemple a été donné récemment en Guinée-Bissau, où c'est l'opposition aujourd'hui qui a la majorité, hein, avec 54 sièges contre 29 pour le parti au pouvoir.
Aux élections législatives.
Législatives. Donc, voilà quoi. Donc, s'ils arrivent à accorder leur violon et être unis, ils peuvent faire quelque chose de devant unir. S'ils
sans
sont unis, ils peuvent
faire quelque chose. Voilà. Il faut peut-être recommander aux acteurs politiques et qu'il vaut mieux, il vaut toujours mieux aménager des ponts, oui, plutôt que d'ériger des murs.
Des murs.
Alors, politique, toujours, la manchette sort un peu du Togo, va au Sénégal avec le dernier message de Macky Sall, qui fait de lui la grande vedette de la politique africaine. Et la manchette qui écrit « Macky Sall, qui vient de renoncer à un troisième mandat ». Et l'article dit « Forn Yassingbé, la curiosité africaine ». Silas Beni ?
Non, ça se passe sur tout commentaire. Ça se passe sur tout commentaire. Le jeune doyen, hein, comme on l'appelle le président togolais, Forn Yassingbé.
C'est ce surnom que lui a donné Alassane Dramane Ouattara.
Oui, c'est pourquoi je dis le jeune doyen, comme on l'appelle. Mm-hmm. Mais quand on le dit,
non, pas, il sourit. C'est pas comme on, c'est comme Ouattara l'appelle.
Ah bon, comme Ouattara l'appelle, mm-hmm, et il sourit. Donc le jeune doyen est là depuis 18 ans. Depuis 18 ans, Macky Sall qui est arrivé il y a quelques
2012.
Années, à 2012, et va laisser donc le pouvoir. Et donc, il dit ouvertement que ce deuxième mandat, c'est le dernier. Mm-hmm. Et donc, il a annoncé ouvertement avec une certaine fierté, et il part. Et bien avant, il y a d'autres qui sont partis. Mais ici, le jeune doyen est toujours là, hein, depuis 18 ans, et puis il n'a même pas de projet ou de plan pour partir. C'est là où nous disons que c'est la curiosité africaine.
Mais
parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la CDAO...
Oui, mais dans ce sens, si Forn Yassingbé, curiosité dans ce domaine, il y a curiosité en majuscule, parce qu'au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est là depuis plus longtemps. Au Cameroun, Paul Biya est là depuis 1982. Ça fait 41 ans. Et quand on ajoute les années où il a été Premier ministre, ça veut dire que Paul Biya est aux affaires de l'État depuis plus de 50 ans. Quand on va en Ouganda également, l'ancien Makisa Museveni, il totalise également près ou plus de 40 ans. Et puis le record, c'est en Guinée équatoriale, avec Teodoro Obiang également. Teodoro Obiang également, pour dire que les curiosités sont plurielles en Afrique. Sylvestre Béni.
Oui, par cette réflexion, je reconnais que tu es Togolais. En réalité, c'est ça. Les Togolais, quand on dit que c'est mauvais, ils disent que nous ne sommes pas seuls parce que l'autre aussi le fait. Généralement, c'est, la dernière fois, on nous a sanctionné pour l'ITIO, dit non, c'est pas le Togo seul parce que le Mexique aussi est sanctionné. Mais il faut apprendre de bons exemples. Il y a dans la sous-région, hein, il y a quand même des exemples à copier. Il faut pas toujours copier les mauvais exemples parce que oui, comment vous l'appelez, Paul Biya fait 32 ans, donc ici où
Paul Biya fait 41-42 ans.
Ah ouais, voilà, donc
président de la République.
Donc il faut aussi le faire. Non, il faut.
Non, je ne compare pas. J'évoque seulement les autres cas de curiosité.
Justement, mais vous prenez aujourd'hui la CDAO. Le président togolais, là, avant beaucoup qui sont partis. Vous prenez par exemple ici Fou Mamadou, le chef de l'État togolais
du Niger.
Le chef de l'État togolais était là avant qu'il n'arrive, il est parti. Vous prenez le Nigeria, il y a Goodluck Jonathan qui est arrivé, qui est parti. Il y a Mamadou Bouhari qui est arrivé, qui est parti. Il y a et maintenant nous avons le nouveau qui est là. Vous prenez quel pays encore? Donnez juste un pays, je vous dirai que le président est arrivé, il est parti. Vous prenez la Sierra Leone, celui qui était là, il est parti. Donc il y a beaucoup, hein, au niveau donc de la CDAO, la curiosité, c'est nous quoi. Il faudrait quand même que nous puissions sortir de cela. C'est
merci.
Important.
L'agriculture maintenant, avec un sujet qui continue à défrayer la chronique, c'est la filière soja.
Oui.
Nous en parlons. Et même si les autorités du ministère de l'Agriculture et du Commerce, hein, restent fermées à nos sollicitations, nous, journalistes, nous continuons toujours à informer sur le sujet. La preuve aujourd'hui, deux journaux s'y intéressent. Le Trident des Enjeux, qui nous parle du CIFS, qui est à définir comme...
Le conseil interprofessionnel de la filière soja.
Justement, ce conseil qui part en tournée dans les préfectures, c'est le titre de Triangle des enjeux. La manchette est aussi écrit que le CIFES veut remobiliser la base. Mais le problème dont se plaignent les producteurs et négociants de soja, le problème est toujours là, n'est-ce pas, Sylvestre Béni?
Oui, le problème demeure parce que pour la dernière campagne, véritablement, ça n'a pas été reçu, il faut le dire, parce que aujourd'hui, lorsque vous discutez encore avec les acteurs de cette filière, notamment les producteurs, les commerçants ou du moins les exportateurs, ils disent qu'ils ont encore 80 000 tonnes aujourd'hui dans les foyers entrepôts à couler, mais ils n'arrivent pas. Parce que cette campagne, les ministères concernés, c'est-à-dire le ministère du Commerce et puis le ministère donc de l'Agriculture, ont un peu traîné pour donner l'agrément à ces commerçants-là. Et donc, du fait donc de la lenteur, il y a certains qui ont vu leur contrat résilié et tout. Donc, or, le projet derrière, en fait, c'est d'aller à une transformation locale et donc de permettre donc à la PIA, la plateforme industrielle d'Adéticopé, de prendre donc ces produits-là, de prendre en quantité ces produits-là pour la transformation locale. Mais malheureusement, la PIA qui disait avoir plus de capacité à absorber tout cela-là, la PIA n'arrive pas. En réalité, c'est ce qui est manifeste, puisqu'ils ont encore 80 000 tonnes sous les bras.
Les producteurs
et négociants. Et donc, il y a par deux fois, ils ont fait des mouvements d'humeur ici, à leur siège à Lomé, qui est au niveau donc d'Agbalpédo, non loin donc de Cour Lumière, je ne fais pas de publicité. Et donc, ils ont demandé ouvertement au gouvernement de les aider à si la PIA ne peut pas absorber donc ces produits-là, qu'on puisse donc les permettre au moins d'aller donc de l'exporter, d'aller donc le vendre donc à l'étranger et tout. Et beaucoup menacent même de ne plus véritablement faire du soja, c'est-à-dire aller encore sur ce terrain-là pour la production du soja, parce que ils ont des dettes au niveau des microfinances. Certains disent déjà à 9h, ils doivent quitter la maison, parce que sachant que c'est à 16h là que viennent les agents de microfinance pour chercher leurs fonds et tout. Et donc, c'est véritablement de l'émoi. Et du fait donc de cette situation, le conseil interprofessionnel de la filière soja, qui voit qu'il y a quand même beaucoup de démobilisation sur le terrain, a donc entrepris une tournée qu'ils ont commencé déjà le lundi, une tournée donc nationale, pour aller discuter avec ces acteurs, les encourager et donc échanger également avec les démembrements de l'État pour voir ce qu'il y a donc lieu de faire pour l'instant avec l'existant que nous avons, ces 80 000 tonnes là, de vite donc trouver une solution avant donc la campagne prochaine qui on va annoncer incessamment. Donc voilà, en réalité,
il est vraiment à craindre une démobilisation.
Justement.
Dans la filière.
Et donc hier, le lundi, ils étaient à Guérin-Kouka. Je crois que hier, ils étaient à Tadjouaré. Ils vont continuer à Chamba, à Blita, dans l'Est Wono et à Ngochin. Donc ils iront partout donc où il y a ces acteurs-là, échanger avec eux et donc leur faire. Sûrement, ils doivent avoir quelques informations aussi au niveau donc du gouvernement, on l'espère. Et donc, pour permettre aux gens donc de refaire le soja. Vous savez, le soja togolais aujourd'hui est prisé à l'international. Mais du fait donc de la situation, si beaucoup donc laissent cette filière là, vous verrez que ce serait également un manque à gagner pour l'État.
Il faut veiller à ce que le soja ne connaisse pas le même sort que le coton. Il y a quelques années, le Togo produisait jusqu'à 135 000 tonnes de coton par an. Mais au dernier chiffre, nous sommes tombés à 46 000 tonnes. On a beau passer le marché coton, la filière coton, au privé de Olam, mais de 135 000 tonnes. Pendant que nous visions 200 000 tonnes, nous sommes tombés à 46 000 tonnes. Ça doit vraiment interpeller au sommet de l'État, le chef de l'État, qui ambitionnait tantôt de voir des milliardaires dans le domaine de l'agriculture. Est-ce que c'est à ce rythme-là?
Justement, nous en parlions même la semaine dernière dans notre parution. Heureusement que le chef de l'État dit que si demain ou après-demain on parle de milliardaires, on peut également trouver donc certaines personnes au niveau de l'agriculture. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la NSCT, je crois que nous le disons, nous l'avons titré la dernière fois, Olam NSCT de mal en pis. Parce que avant Olam, en 2019, la production était à 137 000 tonnes. C'est-à-dire osciller entre 77 000 tonnes et 137 000 tonnes. Maintenant, avec l'arrivée de l'OLAM, donc en 2020, on espérait donc faire plus. En réalité, c'est pour cela que on a cédé donc un 51% donc du capital à cette société pour leur permettre donc d'investir et donc de hausser la production. Or, de 137 000 tonnes, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, nous sommes descendus aujourd'hui à 46 000 tonnes en 2002.
De coton graine.
De coton graine. En 2022, c'était 52 000 tonnes. Et donc, on espérait que ça devait quand même remonter, mais ça chute. Nous sommes aujourd'hui 2022-2023, nous sommes à 46 000 tonnes. Donc, ça veut dire que avant même OLAM, ce qu'on faisait était beaucoup plus rentable qu'OLAM, puisque nous étions à 137 000 tonnes en 2019. Mais si avec leur arrivée, on espérait qu'on doit monter peut-être à 200 000 ou plus de tonnes et que nous chutons à 46 000 tonnes, ça veut dire qu'il y a problème.
Sylvestre, le gouvernement devrait vraiment penser à auditer la question des privatisations. Parce qu'avec la CET, les phosphates, nos hôtels, aujourd'hui le coton et même nos télécommunications avec Togocom, à chaque fois qu'on privatise, c'est plutôt une chute libre. Il va falloir que le chef de l'État ait le courage d'initier un audit de toutes ces privatisations. Afin que
justement parce que les privatisations en réalité
si
on voit ne nous profite pas tellement parce que si on prend quelques exemples que je viens de donner et coton et tout ça donc il faudrait véritablement que
merci
le chef de
à toi Sylvestre Béni comme à Belle-Ozi Santé Éducation qui est toujours avec nous à nos personnes ressources qui nous viennent du ministère de l'urbanisme chers amis auditrices auditeurs rassurez-vous tout le monde est en place nous allons juste observer une petite pause. Et nous nous branchons sur vous.
93.5. Canal FM.
Eh bien, c'est parti. Alors, les deux numéros que vous connaissez, que je me fais le devoir de vous rappeler, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 pour recevoir vos questions. Allô. Oui, déjà un auditeur qui s'annonce. Allô? Allô? Ok, en attendant qu'ils viennent, monsieur le directeur, il y a un auditeur m'a saisi de l'information que à Covier, quelqu'un se serait présenté avec trois tampons qui auraient été refusés.
Merci beaucoup, Sass. La question ne porte pas sur le droit de propriété. Ça doit porter le rejet de son document portera certainement sur le plan. C'est-à-dire les coordonnées géodésiques, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on dit aux gens de. Vous avez le plan, eh bien vous allez demander juste à un, puisque le progrès là, il faut qu'on exploite pour arriver à la fin, il faut que la parcelle soit géolocalisable.
Merci. L'auditeur qui est
pas trois tampons ou bien même les reçus sont acceptés.
Bonjour. Oui, bonjour.
Monsieur Yeye, j'appelle de Lavé.
Monsieur Yeye, depuis la veille.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Oui, ma question pour vous est que les terrains, les bonnes parties des terrains qui sont dans les zones là, les deux zones là, commune Diot 2, commune Diot
AV2,
là,
oui.
Il n'y a pas des réserves dans ces trucs là. Est-ce que quand on va refaire ça, il n'y aura pas de réserves à réserver? Et si ça tombe dans le terrain de quelqu'un?
Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur, vous avez écouté la question de l'auditeur qui nous appelle depuis la veille. Oui, une réponse à lui faire.
Il dit qu'il n'y a pas de réserve dans ces zones-là. Ben, si un aménagement est entrepris, là, il n'y a pas de réserve là-bas, certainement, parce qu'il n'y a pas encore d'aménagement. Donc, si un aménagement a des fins de développement arrive, il faudra bien. Nous savons comment les réserves sont créées. Nous avons deux types de réserves. Les réserves d'équipement et les réserves foncières spéciales.
Voilà. Merci. L'auditeur qui est en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur?
Monsieur Ginangi.
Pardon?
Monsieur Ginangi.
Ginangi.
Oui.
Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît?
J'appelle d'Agoué.
Agoué. Oui. Ok, nous écoutons.
Je voudrais dire à l'équipe du ministère de l'Urbanisme que le plan est très ambitieux et bon. Mais ce que nous déplorons, le Togolais lambda, avec le délai qu'on vient de nous donner, un mois, par le passé, à part le supplémentaire qu'ils viennent de faire. Mm-hmm. Mais c'est pas normal, ça ne nous arrange pas.
Mm-hmm.
Ce n'est pas 200, ce n'est pas 300 personnes. Et pour faire ce plan, comment l'appelle-t-on ?
Géolocalisable.
Le plan parcellaire, nous le l'avait dans la chambre. Il faut se lever, comme il vient de dire, voir un géomètre, et ce n'est pas zéro franc. Hein? Mm-hmm. C'est un truc qui peut vous donner 3-4 mois aux Togolais de se préparer.
Mm-hmm.
On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour parler comme si tout le monde était fonctionnaire.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui fait du Zemdia qui a cotisé pour acheter un terrain. Et maintenant, pour avoir le plan parcellaire, allez même au cadastre voir comment vous allez vous aligner depuis 4 heures pour faire des trucs. Vous allez même dans les mairies là-bas. Les gens arrivent à 4 heures du matin. Ils sont là jusqu'à 15 heures.
Merci. L'ami Djilandji, la préoccupation est notée. Oui, la préoccupation est notée. Les personnes ressources vous répondront incessamment. Le suivant, Aline, bonjour.
Bonjour, mon commandant.
Oui, Patrick.
Comment vous allez pour moi ce matin?
Nous rendons grâce à Dieu.
Merci, je salue les autres aussi.
Mm-hmm.
Monsieur, ça permet moi de dire merci quand même au gouvernement à travers le directeur de cabinet qui est avec vous là-bas.
Mm-hmm.
C'est une bonne initiative. Sauf que le directeur a tout dit, mais n'a pas parlé du nerf de la guerre concernant la géolocalisation des terrains là-bas.
Oui.
Je vous avoue que moi, je connais quelqu'un et le géomètre a pris 20 000 pour faire la géolocalisation. J'aimerais demander si c'est là, c'est-à-dire le quota fixé par le gouvernement.
Mm-hmm.
Deux. Bon, comme venait de dire l'auditeur précédent là, mais vous allez là-bas, les gens vont déjà 3 heures. Il n'y a pas un mécanisme ou bien un système pour faire enrouler les gens là-bas parce qu'il y a trop de monde et ça pose de problème, monsieur Sam.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on peut trouver un système hein, pour que les gens puissent déposer les trucs en toute quiétude, quoi.
Mm-hmm.
Ils n'ont qu'à y réfléchir parce qu'il nous reste peut-être 25 jours. Et je ne suis pas sûr que tout le monde va découvrir. Lui-même, il vient de le dire qu'il y a eu de l'engouement, que les gens se sont intéressés. Mais il y a cette manifestation,
merci beaucoup.
De la population. Mais pourquoi ne pas simplifier les
Merci choses. Beaucoup, Patrick. Ils vous répondront bientôt. Déjà, une suivante, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Paul.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Grégoire Novoura de Bamakopé.
Monsieur Gaïbo.
Bamakopé.
Ok, allez-y.
Oui, je salue mon confrère et tous vos invités.
Oui.
C'est par rapport au litige qu'on tient.
Oui.
Particulièrement le cas de Bamakopé.
Oui.
Vos deux invités connaissent bien le problème pour avoir accès à une rencontre avec la collectivité Bama,
mm-hmm.
au cours de laquelle nous avons eu l'honneur d'assister une dame et moi au nom des acteurs.
Oui, je fais l'effort de vous écouter, la communication n'est pas très bonne.
Oui, donc au final, le ministre avait décidé de faire le déplacement de Bamakopé avec son équipe et pour venir monter les deux collectivités et participer pour pouvoir faire monter et trouver un dénouement de problème.
Oui.
Mais depuis mai 2021, nous attendons toujours le ministre.
Mm-hmm.
Pendant ce temps, nous avons pris connaissance que les quatre ans étaient en train de faire un petit conseil sur le.
Oui.
Nous avons fait une pièce d'opposition, on a bloqué le dossier. Et ces derniers jours, c'est quelques individus qui viennent pour nous dire qu'ils veulent nous aider, que nous sommes les patrons, que nous sommes les vrais patrons.
Là, je m'excuse, la qualité n'est pas très bonne. Cher ami, mais j'ai noté l'essentiel, hein, le déplacement du ministère pour la confrontation des deux parties. Pour régler ce problème. Merci beaucoup. Toutes nos excuses pour les conditions qui n'étaient pas très bonnes. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Komi. Hein?
Komi.
Oui.
Mm-hmm.
Jusqu'à tout à l'heure, j'ai contacté un frère dont je sais qu'il a un terrain à V2.
Oui.
Il dit qu'il n'est pas au courant.
Ah, il est au pays quand même?
Oui, il est au pays.
Mm-hmm.
Mais il dit qu'il n'est pas au courant. Sur ce cas de figure,
oui.
Quel est le sort réservé aux retardataires,
mm-hmm.
ou ceux qui ne sont pas informés pendant la période?
Oui.
Deuxième préoccupation, on voit que la population, lui, il avance très vite que l'urbanisation du pays.
Oui.
Et qu'est-ce qui explique le retard au niveau du ministère? Et pour le débat du jour, moi j'aimerais interpeller le président Macky Sall, tant bien même on attend le 25 pour croire à ses mots, de passer son discours à son homologue togolais, M. Faure Gnassingbé, pour que on puisse s'en servir.
Mais Kwame,
oui.
Vous avez le discours de Macky Sall, non?
Oui, j'ai le discours, eh bien, mais j'aimerais...
Demandez une audience pour aller le remettre en main propre au chef de l'État.
Non. Ils sont des homologues. Macky peut me le faire parce que nous prions au Togo ici, mais Dieu va nous répondre.
Donc, vous voulez en tenir au parallélisme de forme?
Parallélisme de forme.
Ok, c'est bien noté, Kwame. Merci beaucoup. Encore un auditeur. Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui.
Papa Sibiti.
Papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau.
Tout le plateau vous salue.
Bonjour, et pour le ressentiment, moi, je tiens beaucoup à ça. Parce que notre président, je ne voudrais pas qu'on rejette les saletés sur sa tête. Nous prions le président et le ministre de l'administration territoriale.
Payadoua Poussi, oui.
Qu'après la sortie du CPC, on donne ne serait-ce que 3 jours au retardataire. Celui qui n'est plus allé, on ne va plus dire que c'est le président et son ministre qui ont fait ça.
C'est ça.
Moi, je veux qu'on applaudisse le président de la République. Il ne faut pas qu'il dise qu'il n'y a pas d'argent. Même s'il n'y en a pas, le président, je le prie pour qu'il sorte de l'argent avec son ministre de l'Intérieur, pour qu'il fasse ça, pour qu'on applaudisse. Parce que les Togolais, nous les connaissons, et ça ne va pas compliquer. Mais on a fait pour eux, on est au
Merci beaucoup, Papa Sibiti, qui souhaite vivement que au CPC qui a démarré aujourd'hui ou à d'autres instances, on puisse trouver 3 jours de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas réussi à se faire recenser. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je voudrais poser une question aux invités.
Ils sont là.
La différence entre zone approuvée et zone non approuvée. Mm-hmm. Est-ce que ces zones de Thévier, est-ce que ces zones sont approuvées? Ça ne pose pas un problème pour l'initiative. De Dessas, vous venez de dire les chercheurs concernant santé et éducation.
Oui.
C'est nos jeunes femmes qui doivent chercher. Elles doivent chercher. Elles ne savent même pas faire la chose à demain. Sans cube, elles ne peuvent pas.
Sylvain Gbaï.
Oui.
Mais vous parlez de votre maman, de votre soeur, de votre épouse, de votre copine, hein?
Oui, je sais, elle est
okay. Si vous n'êtes pas gentil, le soir, vous devrez aller acheter à Imol ou bien comme le soir. Ok. Je vous en prie, Sylvain Agbayi. Eh bien, monsieur le directeur, docteur Edo, Comlan Théodore, monsieur le directeur de l'urbanisme, vous avez écouté les questions. Il y a un certain nombre, je vous prie de synthétiser les réponses. Bon, les inquiétudes, c'est sur le délai imparti aux opérations. Monsieur le directeur.
Oui, bon, pour le délai, nous avons donc vu, chacun a vu la grande affluence. C'est ce qui a motivé même le rallongement, n'est-ce pas, du délai. Un mois, en plus de ce qui avait été. Mais en temps réel, le gouvernement avisera.
Au-delà du 30, après le 31 juillet.
Le 31.
OK.
Bon, c'est d'ailleurs pourquoi nous tenons à les remercier pour cette grande mobilisation. Au niveau de la géolocalisation, il dit qu'un géomètre a réclamé 20 000. Oui. Vous savez, on est en lien avec l'Ordre national des géomètres du Togo.
Oui.
Et nous allons référer et voir un peu. Parce qu'en réalité, quand le plan n'est pas aux normes UTM, il s'agira juste d'aller prendre les coordonnées. Et je crois qu'avec le Bureau national de l'ordre des géomètres, on devrait quand même sensibiliser ces professionnels.
Alors, est-ce qu'il y a un tarif?
Il n'y a pas de tarif. Il en est de même aussi qu'on avait posé la question la fois dernière de savoir entre un géomètre qui fait un lotissement, quelle est la rémunération? Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de tarif officiel, voyez-vous?
pour le...
Ok, alors comme on signale beaucoup de monde devant les guichets, qu'est-ce qui est fait pour que la tension ne monte pas, que les gens ne s'énervent pas, oui, qu'il n'y ait pas de frustration, oui.
Nous avons dans la première phase fait la tournée, mm-hmm. Nous avons vu avec les maires... les maires et les conseils communaux des deux communes, mm-hmm. pris un certain nombre de dispositions qui, in fine, devaient permettre, n'est-ce pas, d'aérer un tant soit peu tout le processus. Nous allons encore y veiller. Merci. Nous allons refaire tout le tour avec les maires qui sont très, très disponibles. Mm-hmm. On verra comment ensemble...
Vous êtes chez nous aujourd'hui, nous en sommes vraiment heureux. Mais est-ce que vous êtes sûr que l'information sur ces opérations est passé partout dans les deux communes, les premières concernées.
Dans les deux
dans communes, le sens de la sensibilisation,
sensibilisation tous les jours que Dieu fait, nous sillonnons, nous portons l'information. Savez-vous que depuis la diaspora, on vous appelle de l'extérieur, tiens, j'ai mon truc ici, j'ai mon terrain là, donc je crois que nous allons intensifier la sensibilisation, mm-hmm. pour que le message aille au fin fond, n'est-ce pas, de j'allais dire toutes les contrées de la terre, puisque les Togolais sont partout maintenant.
Merci. Quoi encore Alors, pour Bamako-Pé, un sujet qui défraie la chronique, monsieur le directeur de l'urbanisme. Alors, l'auditeur qui appelle de là-bas a dit qu'il aura été convenu une mission de votre ministère pour confronter les deux parties et que finalement, ça n'aurait pas été fait.
Non, contrairement à ce que dit l'auditeur. Cette mission a été bien faite, mm-hmm. en présence des collectivités concernées. On a relevé les points qui marquent les limites de chaque collectivité, mm-hmm. et nous sommes venus faire le rapport pour dessiner, cartographier ce que chacun dit comme propriété, mm-hmm. de sa parcelle dans le milieu. Un compte-rendu a été fait à l'autorité à cet effet. Donc, je pense que si c'est des questions d'appartenance ou bien de propriété de la terre à une collectivité ou l'autre, comme nous le disons toujours, ce n'est pas le ministère de l'urbanisme qui s'en charge, mais plutôt le ministère de la justice, mm-hmm. qui s'occupe de ces...
Ok, vous avez fait la mission, vous avez rendu compte à l'autorité, mais est-ce que l'information est passée auprès des communautés que la mission ministérielle est passée?
Oui, disons que elle est plus ou moins passée parce que les personnes concernées étaient informées, elles étaient mm-hmm. présentes sur les lieux. Chacune des collectivités était mm-hmm. présente et elles ont montré ce qu'elles disent avoir comme terrain dans le secteur.
Ok. À Bamako-Pé, est-ce qu'il y a des gens qui continueraient à faire immatriculer leur propriété jusqu'à obtenir le plan, le titre foncier actuellement?
Si c'est des terrains qui ne sont pas litigés, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas de problème, ça se fait. Mm-hmm. Ça se fait. Donc, si le terrain pose problème, les personnes chargées de la procédure du titre, remettre la procédure en cause jusqu'au moment où ils savent exactement, par rapport à la décision de justice, mm-hmm. à qui appartient le terrain, avant de pouvoir donner le titre foncier à la personne.
Ok. L'ami Sylvain Agbaye est revenu sur les communes Zio 2 et AV2 et cherchait à savoir si c'est des zones approuvées.
Non, Zio 2 oui. et AV2 ne sont pas encore des zones approuvées. Mm-hmm. Une zone approuvée, c'est une zone qui a fait l'objet d'un aménagement spécifique reconnu par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Mm-hmm. Pour le moment, c'est à l'issue de ces opérations, oui. les plans locaux d'urbanisme de ces deux communes, qu'on pourra dire que ces deux communes disposent de documents de planification urbaine qui sont approuvés.
Merci. Un complément là-dessus, monsieur le directeur?
Non, tout a été dit. Tout mm-hmm. a été dit. Nous reste, n'est-ce pas, à remercier toute la population. Voyez-vous, tantôt nous parlions des deux collectivités de Bamako-Pé, mm-hmm. qui sont parties sur les lieux montrer, n'est-ce pas, les extensions de leur propriété. Il en est de même aussi de ce que nous faisons, n'est-ce pas, dans les deux communes avec deux, que chacun apporte un plan avec des données géolocalisables pour couper court à toutes les prétentions qui ne sont pas de nature à garantir la paix civile.
Merci Sylvestre Béni, Papa Sibiti, qui a plaidé pour qu'on ne fasse pas un procès en sorcellerie au chef de l'État. Papa Sibiti demande à la CENI, au ministre Payade Obokwesi, de trouver une solution, accorder quelques jours de rattrapage pour qu'on ne dise pas que c'est le chef de l'État qui aurait privé les Togolais d'avoir leur carte d'électeur.
Oui, je le disais ici au début donc du processus, qu'il faudrait cette fois-ci qu'on puisse œuvrer à ce qu'il n'y ait pas quelques petits pépins qui vont quand même entacher le scrutin. Et après, c'est à des situations que nous déplorons qui vont arriver. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que tout le monde l'a reconnu. Et même, je le dis, le gouvernement, même l'a dit en Conseil des ministres. Ça veut dire qu'à un plus gros degré, on a vu qu'il y a eu quelques dysfonctionnements dans la zone 1. Donc, le mieux à faire aujourd'hui, c'est de trouver 2 ou 3 jours supplémentaires à Lomé, qu'on fasse ce recensement-là, et puis quitte, quand ce problème-là est réglé, on passe à autre chose. Mais si déjà les politiques, surtout l'opposition, se fondent sur cela, c'est déjà un élément qui, peut-être après le scrutin, on va brandir comme quoi, voilà, on l'a fait sciemment, on sait, puisqu'il y a déjà, au sein donc de la masse, certains qui disent que, comme la zone 1 est presque le fief de l'opposition, mais si tout cela est à vérifier, donc on le fait sciemment pour que les Togolais, la zone 1, ne puissent pas voter.
C'est ce que j'appelais tantôt procès en sorcellerie.
Voilà. Donc le mieux à faire, c'est que la CENI puisse discuter avec les autautorités compétentes, qu'on trouve 2 ou 3 jours supplémentaires à Lomé. Et puis le problème est réglé.
Le micro pour un carton de fin d'émission à quelqu'un, ou bien une pensée à une personne qui t'est chère.
Non, bon, une pensée à tous les Togolais, parce qu'en réalité, c'est chaud. Hein.
Mais le premier des Togolais d'abord.
C'est chaud. Non, lui, là, il en a suffisamment.
C'est qui? C'est qui, lui?
Non, c'est le jeune Joyen.
Il s'appelle comment?
Vous connaissez son nom?
Non, moi, j'ai oublié.
Okay. Non, tu ne connais pas le nom de ton président?
J'ai oublié.
Mais là, c'est... Tu oublies le nom de ton président?
Et je te demande seulement que tu me le rappelles.
Voilà, il s'appelle Fort et Sorsina Nyasimbe.
Merci, donc, voilà. Merci. Alors, Abel aussi?
Pas de commentaire.
Pas de commentaire. Monsieur le directeur, alors, un ami auditeur, hein, c'est mon frère de Vaud, Ousseni Bello, qui nous écoute en direct depuis la France.
Voilà.
Elle nous dit que et lui et bon nombre de Togolais de la diaspora ne sont pas encore informés et qu'il faut préparer les plans géolocalisés. C'est-à-dire que, monsieur le directeur, le métier de la sensibilisation ne doit jamais quitter le métier.
Le métier, tout à fait. Tout à fait. On portera l'information. On portera l'information, donc, afin que tous les détenteurs de fonds de terre puissent être au courant pour que le process aille jusqu'à son terme. Merci. Dans de très bonnes conditions.
Merci. Avant vous,
monsieur. Pour ce genre d'opération, pensez également à la presse pour une meilleure communication. Vous verrez que ça va marcher.
Merci beaucoup.
Moi, je les ai invités aujourd'hui. Demain, tu peux les inviter aussi si vous voilà. Venez. Ah, monsieur, j'essaie de l'urbanisme. Quelques secondes pour votre conclusion.
Merci.
De cette émission, bien sûr.
Oui, merci, monsieur Sasgao, pour cette invitation. Je pense que. Cette émission nous a permis, a permis à une bonne partie de la population togolaise de savoir ce qui se passe actuellement dans les deux communes AV2 et IO2. Donc vivement que ce genre d'événement continue pour qu'on puisse sensibiliser davantage nos populations afin que nous puissions asseoir un développement urbain harmonieux de nos villes.
Merci, monsieur le directeur, pour c'est vous qui clôturez l'émission.
Ben je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez pour passer l'information. Je ne le dirai jamais assez, je mets encore les pieds dans la scène là pour remercier vivement toute la population des deux communes pour avoir vraiment compris et toute la grande mobilisation que nous avons observée, tout ira, on verra jusqu'à la ferme, jusqu'à la terre, jusqu'à la fin du délai imparti, et le gouvernement avisera.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous souhaitons bon appétit quand nous allons passer à table. Demain jeudi, rendez-vous renouvelé à 11h. Prions que Dieu le veuille.
Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie pour faire fructifier votre patrimoine tout en bénéficiant du rendement exceptionnel du marché financier, vous propose l'émission Club de la Presse. GTA Assurance Vie, en toute confiance. L'émission Club de la Presse vous a été proposée par Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Canal FM.